ici à Rome en direct depuis le bureau de Radio France en compagnie de Mathilde Imberti. Nous accueillons Sandro Gozzi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Parti démocratique, secrétaire d'État auprès du président du Conseil des ministres et chargé des affaires européennes. Votre réaction à ce gouvernement qui est en train de se composer, si le président italien l'accepte, cette alliance qui nous paraît contre nature entre la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, Sandro Gozzi?
Contre nature, je ne suis pas sûr, parce qu'elles sont deux faces du même populisme. Et finalement, Di Maio et Matteo Salvini ne sont pas aussi différents. On a un mouvement populiste vaste qui a certains, sans doute une face d'extrême droite lépéniste, parce que Matteo Salvini, c'est Marine Le Pen en Italie. Et donc l'extrême droite et celle de Luigi Di Maio qui c'est d'un opportunisme extrême. Donc ils peuvent le lundi dire « nous voulons un référendum pour sortir de la zone euro » comme Beppe Grillo a à nouveau confirmé dans une revue française Putsch il y a deux semaines. Les mardis peuvent dire qu'ils sont des pro-européens et les mercredis disent qu'ils ne savent pas. Mais c'est la même chose, c'est la volonté de mener une politique qui sera sans doute anti-européenne.
Alors ça, effectivement, c'est le caractère extrêmement changeant de leur discours. Les électeurs, eux, ils ont voté en faveur de ces deux formations pour des raisons précises. Lesquelles, selon vous, Sandro Gozzi?
Plusieurs. Tout d'abord, les effets de la crise économique ont été dévastateurs en Italie et ça remonte à 2012-2013. Les effets sociaux aussi des mesures d'austérité, notamment menées à l'époque par le gouvernement Monti quand l'Italie était sur le bord du gouffre, ont été vraiment très très durs en Italie et ça prend du temps pour rattraper ça. Et sans doute, notre action dans les 4 ans n'a pas été suffisante pour redonner pleinement du souffle économique et social. De l'autre côté, la crise migratoire a sans doute marqué les esprits et ça, c'est la raison principale du sentiment anti-européen de la majorité des Italiens aujourd'hui, l'absence de l'Europe, l'égoïsme européen de la Méditerranée.
Mathilde Imberti.
Sandro Gozzi, quelle est la responsabilité du Parti démocrate qui a vécu une débâcle aux élections du 4 mars dernier? La figure de Matteo Renzi est très contestée en Italie. Comment ça se fait que vous en êtes arrivé là?
Je crois que la responsabilité du Parti démocrate est double. Tout d'abord, d'avoir été au gouvernement. Et en Europe, quand on est au gouvernement pendant la crise, et surtout dans un pays comme frappé par les crises économiques et sociales et identitaires liées à l'immigration comme l'Italie, c'est toujours difficile d'être reconfirmé. C'est un peu ce qui s'est passé dans tous les cas dans les gouvernements en place en Europe. De l'autre côté, n'a pas mis dès le premier jour les mesures sociales et de lutte contre la pauvreté comme grande priorité. On a mené un agenda pour les droits civiques fondamentaux énorme, mais on est arrivé trop tard avec les mesures de lutte contre la pauvreté et ça sans doute dans le sud. Nous avons été sanctionnés pour ça.
Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Parce que donc l'une des propositions du mouvement 5 étoiles, c'est un revenu universel à 780 euros. Est-ce que, par exemple, ça, c'est une mesure que vous auriez dû prendre?
Comme il le propose, c'est insoutenable. Mais le fait que nous avons introduit un revenu d'inclusion sociale dans des luttes contre la pauvreté et des réinsertions sociales dans les derniers jours du gouvernement Gentiloni, au lieu de les mettre dans les premiers jours du gouvernement Renzi en 2014, ça a été une erreur, parce que c'est clair que ça, c'était une réponse, notamment des luttes contre la pauvreté dans le sud de l'Italie.
Si c'est insoutenable, parce qu'il faut rappeler qu'il propose à la fois baisse des impôts, avec deux taux, un taux à 15%, un taux à 20%, donc très bas par rapport à la moyenne européenne,
moins que la moitié de l'Italie aujourd'hui.
Ce revenu universel, êtes-vous sûr que ce gouvernement mènera l'Italie à la faillite? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir, au contraire, une relance avec ce type de mesures?
C'est très simple. S'ils vont mettre en œuvre leur programme, l'Italie va tout droit contre ses engagements européens. Elle va être sanctionnée par les marchés parce que c'est totalement insoutenable et ce n'est pas chiffré. Mais selon les instituts indépendants, ça va coûter entre 110 milliards et 128 milliards. S'ils ne vont pas mettre en œuvre le programme, c'est les sauts de l'inconnu. Et là, on est devant à la possibilité d'avoir un gouvernement des zigotos, d'extrême droite et des populistes extrêmes, avec des technocrates pour toutes les saisons. On parle des technocrates qui étaient à côté des bras droits de Monti, pourraient rentrer dans ce nouveau gouvernement. Donc, on a vraiment les contradictions de la façon la plus aiguë. Et c'est inquiétant pour l'Italie, notamment, mais aussi l'Italie un grand pays européen pour l'Europe.
Mais alors cette coalition, elle se défend, elle dit nous ne sommes pas des populistes, nous voulons une peuplocratie. Si le peuple veut cela, s'il veut effectivement une relance, une politique de relance, tandis que vous, avec Matteo Renzi, vous avez fait une politique d'austérité, est-ce que...
Alors là, je ne suis pas d'accord. On a contesté la politique d'austérité, exactement. On a dit que l'austérité à la Wolfgang Schäuble était le grand problème de l'Europe et le grand problème de l'Italie. Mais nous avons travaillé de façon concertée avec nos partenaires, pas de façon unilatérale. On n'a pas menacé de façon unilatérale de vouloir sortir de la zone euro comme ces potentiels membres du non-gouvernement pourraient faire.
La vie est peut-être injuste, mais si vous avez été perçu comme cela, Sandro Gozzi, si les Italiens ont considéré que vous ne faisiez pas assez pour protéger les frontières, parce que le thème des frontières est aujourd'hui extrêmement présent dans le discours politique italien, et si vous ne faisiez pas de politique de relance efficace. Moi, je ne porte pas de jugement, j'entends juste les gens et je vous renvoie donc ces critiques.
Évidemment, il y a eu des erreurs, sinon on n'aurait pas été sanctionné par la majorité absolue des Italiens. Mais ce n'est pas parce qu'on respecte les choix démocratiques qu'on doit être d'accord avec les contenus d'un programme qui est totalement farfelu, qui est totalement insoutenable, qui va à l'encontre des intérêts des Italiens. Et parce que, évidemment, de mettre hors jeu les finances publiques italiennes, ce n'est pas la bonne voie. Mais évidemment, on doit avoir une Europe sociale, on doit mener une politique d'investissement, on doit travailler ensemble en tant qu'Européens pour gérer les frontières extérieures. Et les retards de nos partenaires européens là-dessus, avec...
Voilà, Sandro Gozzi, c'est vrai que... Est-ce que vous en voulez à l'Europe de ne pas avoir fait respecter... Alors, ce plan Juncker dont on parlait, par exemple, sur l'immigration, est-ce que c'est vrai qu'on a laissé l'Italie seule? Quel est votre point de vue à vous qui défendez à la fois la situation italienne, la position italienne et l'Europe, puisque vous êtes un Européen convaincu à l'heure d'aujourd'hui?
Matteo Renzi et moi-même, nous avons dénoncé les absences et les égoïsmes européens vis-à-vis de l'immigration de la Méditerranée depuis 2014. Et de l'Europe sont arrivés des mots de solidarité, mais pas assez d'actions de solidarité. Les choses ont changé en 2017, mais ça, c'était trop tard. Et ça, c'était une des raisons principales de la montée de l'extrême droite en Italie. Le fait qu'il était clair qu'une question comme l'immigration devait être gérée avec des politiques communes efficaces au niveau européen et qu'en Europe, c'était les chacun pour soi.
Et alors, on fait quoi maintenant? Parce que la coalition dit, si elle va au pouvoir, on va réviser le traité de Dublin, on va expulser ces 500 000 clandestins. C'est faisable, ça?
Et 500 000 clandestins, en organisant 3 charters par jour, ça va coûter entre 2 milliards et demi, 3 milliards d'euros, et ça va prendre entre 6 ans et 8 ans. Il faut que dans ces 8 ans, il n'y a pas un seul immigré qui va venir en Italie, sinon ils ne peuvent pas respecter les programmes. Est-ce que vous pensez que c'est faisable?
Vous êtes en train de dire que c'est une promesse démagogique, mais si vous êtes confronté à ce type de réaction, et on est allé à la rencontre de beaucoup d'électeurs du mouvement 5 étoiles, pas seulement de la Ligue, mais du mouvement 5 étoiles, on va entendre d'ailleurs encore un électeur de la Ligue dans quelques instants, à chaque fois, le discours a été, je dois dire, extrêmement xénophobe.
Mais ce sont des xénophobes, mais la Ligue de Matteo Salvini, c'est Marine Le Pen.
Je ne parle pas seulement de la Ligue, je parle aussi des électeurs du mouvement 5 étoiles.
Le mouvement 5 étoiles, au début, et c'était un mouvement qui naissait sur l'anticorruption, sur la sensibilité écologique et qui était concurrent notamment du Parti démocrate.
Aujourd'hui, on s'en souvient bien, mais...
Aujourd'hui, il y a tous les contraires de tout. Et aujourd'hui, Di Maio, il s'entend très bien avec Salvini parce que Di Maio a une sensibilité qui est aussi d'extrême droite. Et dans le mouvement 5 étoiles, il y a un peu tous les contraires de tout. Et ces contradictions vont exploser du moment où ils commenceront à être mis à l'épreuve du gouvernement.
On écoute Luigi, le patron d'un bureau de tabac. Roman Bornstein est allé à sa rencontre hier. Il a voté pour le parti d'extrême droite de Matteo Salvini.
La parte que la vedo tutti i giorni, pure qui al negozio, io c'ho gente.
Tous les jours, devant mon tabac, je vois ces gens qui font la manche devant mon magasin. Ils demandent aux clients des sous. Alors je leur fais nettoyer le trottoir, je leur donne une pièce. Mais il y en a tellement, ils sont si nombreux qu'on n'y arrive plus. C'est pas que je leur veux du mal, mais on n'a pas assez d'argent. Les gens ne peuvent plus leur donner.
Comunque, l'immigration est
toute l'immigration, on a un gros problème en Italie, c'est le travail. L'immigration, c'est central parce qu'on ne contrôle plus la situation. Il y a tant d'Italiens qui n'ont pas de travail, qui doivent voler pour vivre. Pour améliorer le travail, il faut envoyer à la retraite ceux qui ont travaillé et faire de la place aux jeunes. Voilà. C'est ça ce que lui, il dit, Salvini. Et j'ai voté pour lui. Et j'espère qu'il trouvera la solution.
Luigi, qui est donc le patron d'un bureau de tabac, qui a été interrogé hier par Roman Bernstein, Mathilde Amerti.
Est-ce que cette question de la migration, Sandro Gozzi, le Parti démocrate ne s'est pas réveillé un peu tard? Je vous le demande parce que Marco Minniti, qui a été le ministre de l'Intérieur sous Gentiloni, a réussi alors à stopper le flux des migrants depuis la Libye. Il y a beaucoup moins de débarquements sur les côtes italiennes à travers un accord controversé avec des forces libyennes dont on ne sait pas exactement qui elles sont. Néanmoins, effectivement, le flux des migrants a ralenti. Vous n'avez pas réussi à défendre cette politique? On n'est pas allé assez loin selon les Italiens?
D'après moi, c'était une action très efficace qui a été menée par le gouvernement Gentiloni dans la dernière année. Mais ça n'a pas été perçu autant par l'opinion publique italienne. Et donc, on se trouve dans une situation qui est un peu paradoxale. Nous avons résolu en grande partie les flux illégaux, l'arrivée des flux illégaux dès la Libye, mais les sentiments d'invasion est resté dans l'opinion publique. Et cet écart entre la réalité et l'efficacité de l'action du gouvernement et la perception de l'opinion publique que nous avons payé très cher aux élections. Donc, on aurait dû peut-être intervenir de façon autonome en Libye avant, au lieu d'attendre une action européenne qui tardait à arriver et qui n'a pas été véritablement concrète dans la Méditerranée. Sans doute, si je devais aller en arrière, je dirais action à la Minniti depuis 2014 et pas seulement en 2016.
La faute à qui? Parce que vous étiez auprès de Matteo Renzi, chargé des affaires européennes. Est-ce qu'il y a un pays européen, plusieurs pays européens qui ont fait preuve d'égoïsme, Sandro Gozzi, lorsque vous deviez négocier cela, parce que vous en aviez conscience à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est passé tout d'abord du point de vue de la politique économique. L'approche à la Wolfgang Schäuble a été dévastateur pour l'Europe et dévastateur en Italie. Et cette approche dogmatique à l'austérité, ces totems de vouloir avoir les surplus des budgets qui a caractérisé la politique économique de l'Allemagne, porte une très grande responsabilité sur l'état dans lequel l'Europe se trouve et sur l'état dans lequel l'Europe est perçue en Italie. De l'autre côté, les retards de nos partenaires européens à comprendre que la question des réfugiés et la question de l'immigration irrégulière, c'était une grande question européenne, a été l'autre grande faute de l'Europe. L'Allemagne, là, il y a eu un revirement. Il y a eu un revirement quand l'Allemagne a eu un problème avec les réfugiés syriens. Avant, l'Allemagne pensait que l'immigration c'était un problème uniquement italien ou grec ou espagnol. Après, et sans doute, l'Allemagne a changé de position et a travaillé avec l'Italie. Et de ce point de vue, il faut qu'il y ait une meilleure entente aussi avec la France sur la question de l'immigration et des réfugiés.
Mathilde Amerti.
Vous êtes proche, Sandro Gozzi, du mouvement En Marche, oui. D'Emmanuel Macron. Le projet d'Emmanuel Macron pour l'Europe avec cette perspective d'une alliance populiste en Italie, ce projet-là, il est clairement menacé.
Et moi, je partage tout à fait les projets de refondation européenne d'Emmanuel Macron. Je crois qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est le seul leader européen qui s'engage véritablement pour réformer l'Europe. Notre gouvernement était un allié très proche d'Emmanuel Macron. Je crois que l'Italie de Salvini et Di Maio sera un partenaire beaucoup plus difficile pour tout le monde et aussi pour Emmanuel Macron. C'est pour cela que je crois que les élections européennes de l'année prochaine seront très importants et c'est en vue de ces élections que nous devons organiser une nouvelle alliance pour l'Europe et les progrès. Et moi, je souhaite que les partis démocrates soient un allié d'En Marche, du mouvement démocrate, des Ciudadanos, de ces nouveaux Européens qui veulent véritablement refonder l'Europe en passant par la démocratie et les choix des citoyens.
Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, c'est celui de la hargne, de la colère contre l'establishment. Je prononce ce terme parce que c'est celui qu'a employé un politologue italien, Giuliano Ampoli, lui évoque une hargne profonde des électeurs contre ceux qui les ont gouvernés pendant ces années. Ils savent, ils peuvent savoir que cette coalition ne tiendra pas toutes ses promesses, mais ce qu'ils veulent, c'est que la classe politique soit profondément rénovée avec un certain nombre de commentaires. Par exemple, l'interdiction des francs-maçons de gouverner en Italie qui serait proposée dans la plateforme.
C'est une violation de la Constitution, parce que du point de vue de la Constitution, on ne peut pas interdire à un franc-maçon d'être au gouvernement.
Violation de la Constitution.
Donc, après, on peut, de toute façon, tout ces...
Sur le plan symbolique, lorsqu'on dit cela, on dit, en réalité, on ne veut plus être gouverné par ceux qui nous ont gouverné hier.
Il y a sans doute un sentiment anti-élite qui est très répandu dans toute l'Europe, et pas seulement en Europe, et ceci a été bien interprété par Matteo Salvini et Luigi Di Maio. Mais c'est aussi contradictoire, Matteo Salvini est aux affaires depuis 25 ans. Matteo Salvini était les bras droits d'Umberto Bossi en 1994. Donc c'est toute une présentation hypocrite de la réalité. C'est vrai que nous avons soulevé beaucoup d'espoir, nous avons renouvelé en tant que démocrates la classe politique au niveau national, mais sur le terrain, non, on a laissé les mêmes. Et là, sans doute, c'était une des fautes que nous avons commises.
Mathilde Averti.
Oui, je dis, c'est une précision importante à faire pour la Ligue, hein, qui gouvernait il y a déjà 20 ans en Italie, aux côtés de Silvio Berlusconi, qui actuellement gère deux régions très importantes du nord de l'Italie, les régions locomotives du pays. La Ligue se présente comme un parti anti-système. Effectivement, c'est cette image que veut donner Matteo Salvini. Elle est assez peu. Le mouvement 5 étoiles l'est peut-être davantage.
Le mouvement 5 étoiles, c'est sans doute plus nouveau. C'est sans doute un mouvement... populiste des types nouveaux, mais la Ligue du Nord la Ligue a été au gouvernement avec Berlusconi pour plus qu'une décennie, et il gouverne des régions importantes, et il porte des responsabilités énormes sur certains choix qui ont été faits sur l'immigration, par exemple, ou sur les choix économiques.
Bon, c'est l'un des paradoxes de tous ces mouvements qui prônent le dégagisme. Bien souvent, ils sont constitués aussi en partie de politiciens professionnels, politiciens depuis de nombreuses années, Sandro Gozzi. Et justement, il y a, semble-t-il, une spécificité du mouvement 5 étoiles, c'est qu'à la fois, ils prônent un dégagisme violent, et il y a même un terme beaucoup plus grossier en italien employé par ce mouvement-là, mais à côté de ce dégagisme, ils utilisent énormément Internet pour tenter de comprendre ce que les individus veulent, ce que les électeurs veulent, et leur servir en quelque sorte le programme qu'ils appellent de leur vœu. Ça aussi, c'est une forme de singularité du mouvement 5 étoiles.
Deux aspects très importants. D'un côté, la fausse démocratie. Le mouvement 5 étoiles, c'est un mouvement, et il faut lire les statuts du 5 étoiles, où les garants, à savoir les comédiens Beppe Grillo, peuvent décider tout et le contraire de tout. Si Beppe Grillo aujourd'hui décidait que Di Maio n'est plus l'idée du mouvement 5 étoiles, il pourrait le faire. C'est marqué dans les statuts. Et donc, vous avez une fausse démocratie dans laquelle il y a les garants Beppe Grillo, il y a une société privée, de Casaleggio, qui gère la plateforme Rousseau et qui gère tous ces mouvements.
Casaleggio, mais c'était le penseur, le gourou, informaticien, gourou
du mouvement 5 étoiles. Mais c'est que je crois que c'est positif du mouvement 5 étoiles, c'est d'avoir compris qu'il faut avoir des nouvelles formes de participation démocratique aussi en utilisant Internet. C'est ça, c'est important. Et je crois que là-dessus, nous devons réfléchir pour aller dans une direction similaire, mais beaucoup plus démocratique et moins hypocrite.
Un mot de conclusion provisoire, Sandro Gozzi, à 8h46. Votre vision de l'avenir, je veux dire, à court terme, est-ce qu'il va y avoir formation de gouvernement? Est-ce que le président italien va accepter Giuseppe Conte?
Je ne sais pas s'il va accepter. Il va y réfléchir aujourd'hui, demain. Et je crois que nous aurons un gouvernement, même si Salvini et Di Maio seront imprévisibles. Je crois que ce gouvernement sera plein de contradictions. Je crois que ce mélange bizarre entre technocrates du gouvernement Monti et improbable ministre de la Ligue et des 5 étoiles va nuire à mon pays. Mais je crois que, ça, après tout, ça va correspondre au choix démocratique des Italiens. Et je crois que tout le monde devrait essayer d'être gouvernement par Salvini et par Di Maio. Le gouvernement des 5 étoiles à Rome n'est pas vraiment un exemple de succès, si je peux, avec un understatement. Hein, mais je ne souhaite pas que l'Italie devienne une grande Rome, mais les Italiens ont choisi ça et il faut les mettre à la preuve.
Sandro Gozzi, vous restez avec nous. Mathilde Averti, on est en direct de Rome depuis le bureau de Radio France à 8h48 pour évoquer le futur politique de l'Italie. Le futur politique vu par des acteurs de la scène culturelle. Monique Vaute, vous êtes présidente du du festival Roma Europa qui met en valeur la création artistique contemporaine en Italie. À côté de vous, Guido Mazzoni, vous êtes professeur de littérature et poète. Monique Vaud, votre regard sur ce qui est en train de se produire sur la scène politique italienne?
Alors, je dirais que du point de vue culturel, on a l'habitude de résister. Moi, ça fait 33 ans que je suis en Italie, donc effectivement, j'ai vu passer pas mal de présidents du Conseil, de gauche et de droite, surtout de droite d'ailleurs. Et ça n'a paradoxalement pas beaucoup changé tout ce qui se passait dans le panorama culturel, parce que au fond, la société italienne, et surtout dans le domaine de la culture, étant plutôt de gauche, a été écartée par les gouvernements Berlusconi qui s'y intéressaient quasiment pas. La gauche, par contre, lorsqu'est arrivée au gouvernement, s'est plutôt intéressée à la question du patrimoine, ce qui est d'ailleurs assez juste, parce qu'effectivement, l'Italie contient un patrimoine absolument énorme. Par contre, tout ce qui était spectacle vivant, la musique, la danse, le théâtre, etc., a continué à vivre de manière, je dirais, parallèle, en inventant des situations qui sont absolument, comment dire, incroyables et, je dirais, très, très spécifiques à l'Italie, qui n'ont rien à voir. Eh bien, par exemple, l'invention de festivals, le travail dans les squats, le travail qui se fait tout à fait en parallèle, ce sont des choses qui, par exemple, sont totalement normales en Italie. Vous avez d'immenses artistes qui sont très très reconnus. Moi, je prendrais le nom de Romeo Castellucci, par exemple, que tout le monde connaît très très bien. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de subvention en Italie.
Rappelez-vous quelques-unes de ses œuvres.
Romeo Castellucci, par exemple, a fait un travail sur l'Oresti. Il travaille beaucoup à l'Opéra de Paris, par exemple. Il a fait un travail sur Idoménée qui est absolument incroyable. Il a fait un travail aussi sur Wagner qui est absolument incroyable. En Italie, il est quasiment pas programmé.
Guido Mazzoni, vous êtes, vous, poète et professeur de littérature. Votre regard sur cette coalition gouvernementale qui serait censée se mettre en place?
On est dans une crise profonde, très profonde. La chose qui me frappe, c'est le fait qu'on a accepté la perte d'une classe dirigeante plausible et à l'auteur de sa mission politique. Le mouvement 5 étoiles a mis en place un discours selon lequel on peut gouverner une nation moderne sans une classe dirigeante préparée, spécialisée. Tandis que le parti de masse de la seconde moitié du XXe siècle connaissait très bien l'importance de la formation de classe dirigeante. En cultivant la révolte contre les élites, le mouvement 5 étoiles a fini donner du crédit à une vision populiste de la politique qui peut vraiment changer les pays d'une manière profonde.
Et oui, parce que ça, c'est quelque chose qui a été théorisé par Beppe Grillo. Oui. Il est heureux, dit-il, que la politique soit entre les mains de gens qui ne soient pas des professionnels.
Ça, c'est un problème. C'est un problème. Max Weber et d'autres sociologues du XXe siècle ont réfléchi beaucoup autour de ce problème-là. Et on peut pas donner une réponse si simple à une question qui est immense et qui est au centre de toute démocratie moderne.
Mais alors, du coup, on se dit, Monique Vaud, en entendant votre discours, est-ce que les milieux culturels en Italie sont coupés du reste de la population? Je ne dis pas que ça n'est pas la même configuration en France, mais est-ce qu'il y a véritablement deux mondes qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus? Est-ce que, au contraire, vous seriez plus optimiste?
Ah non, plus optimiste, sûrement pas. Mais enfin, pire non plus. Je dirais qu'effectivement, on a résisté vraiment du temps de Berlusconi, en pensant qu'effectivement, il fallait probablement avoir des actions contre. On s'est rendu compte que de toute façon, on nous laissait vivre. Qu'on avait une espèce de façon...
C'est insuffisant, enfin, je veux dire par là que...
Ben non, parce qu'en fait, une société civile qui arrive effectivement à avoir une parole publique forte, elle l'a et elle pénètre dans la population. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu un désintérêt. Par exemple, je pense que Rome est un exemple, mais je ne sais pas très bien comment ça se passe à Turin, qui sont quand même les deux exemples où on a une gestion de la politique des 5 étoiles. Ça fonctionne pas vraiment, n'empêche que le milieu culturel continue. Regardez, par exemple, quelqu'un comme Alessandro Baricco. Il a monté une des plus grandes écoles, je veux dire, de scénographie et d'écriture, qui est parallèle, qui n'est pas soutenue par l'État, mais mais et qui continue à vivre très très bien. Donc si vous voulez, c'est comme si effectivement on arrivait à continuer à vivre malgré tout.
Guido Mazzoni, le regard des intellectuels et justement la manière dont ils participent ou ne participent pas à ce débat politique, est-ce qu'il pèse encore sur la manière dont les Italiens votent ?
La réponse est très simple, non. Les intellectuels ont perdu leur rôle public depuis longtemps en Italie.
Je suis d'accord. Parce que vous parliez même de l'engagement effectivement contre Berlusconi à l'époque. On avait des rassemblements sur les places à Rome, des intellectuels qui prenaient la parole, des hommes de culture. Moretti s'est beaucoup engagé, par exemple Nanni Moretti. Aujourd'hui, il y a qui sur la scène italienne? Et si on se tourne vers Sandro Gozzi, si on veut parler d'un parti de gauche, disons de centre-gauche, le Parti démocrate, vous avez qui comme intellectuel? On a l'impression d'un désengagement.
Mais Moretti, à l'époque, il était autant critique de Berlusconi que de la gauche.
Absolument, mais en tout cas, il intervenait, on l'entendait.
Oui.
Comment ça se fait, ça, quand, d'après vous, votre regard?
Est-ce que c'est pas parce qu'au fond, ça n'a pas eu des effets absolument à l'époque où on voulait le faire, rien n'a vraiment réussi. Donc, on continue à faire notre vie en parallèle. Oui. La société civile en Italie, on l'oublie, est beaucoup, beaucoup plus forte que ça ne l'est en France. On n'a pas d'idée de la façon dont ça fonctionne en Italie, en France. L'Italie a quelque chose de très paradoxal de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, d'un côté, effectivement, une grande parole politique, si vous allez dans les soirées où on parle tout le temps de politique en Italie, mais en même temps, l'engagement n'est pas de ce côté-là. L'engagement, il est du côté de la vie qu'on peut mener, la façon dont on le fait, et elle est menée en parallèle. Probablement, si la gauche a perdu, c'est parce qu'elle n'a pas assez entendu ce qui se passait du côté de la société civile. Pardon.
Et les intellectuels, alors, comment cela se fait-il, Guido Mazzoni, qu'ils soient aujourd'hui inaudibles avec une configuration quand même qui est très particulière, parce que Bébé Griot, par certains aspects, il rappelle Berlusconi, c'est évident, il rappelle Trump, c'est quelqu'un qui est très connu sur le plan donc télévisuel, c'est quelqu'un qui s'est appuyé sur des méthodes extrêmement sophistiquées via Internet de données sur ce que les Italiens voulaient.
C'est une chose très difficile à expliquer aux Français, parce qu'en France, les intellectuels ont encore une importance publique, ils parlent beaucoup, ils ont une intervention constante. En Italie, il y a depuis longtemps une coupure qui est très, très nette entre la vie intellectuelle et le discours public. La dernière phase où les intellectuels ont eu une parole publique remonte à l'époque des grands partis de masse de l'après-guerre. Je dirais qu'après ce qui a été une véritable révolution, une révolution de droite, mais une révolution, la révolution berlusconienne depuis la crise du 92-93 et puis la victoire de Berlusconi aux élections du 94, le discours politique italien est un discours à dominante populiste.
Sandro Gozzi, c'est une crainte de plus pour le camp des gens qui sont raisonnables, qui se pensent comme raisonnables. Je ne sais pas s'il faut l'être, mais quand vous étiez ministre de Matteo Renzi, a-t-il la possibilité aujourd'hui de retrouver le contact avec le peuple?
Moi, je crois que les rôles des intellectuels italiens a disparu depuis longtemps et ne peut pas être comparé à celui qu'ils jouent en France. Je crois que quand ils s'expriment avec ils sont trop hautains, ils sont trop détachés de la vie politique, ils s'expriment uniquement pour casser toute tentative de renouvellement de la vie politique. C'est ça, c'est une faute. Et même les idéologues.
Là, vous êtes en colère contre eux. Qu'ils ont eu là-dedans contre votre parti, contre Matteo Renzi.
Ils n'ont pas joué un rôle constructif, jamais. Et même quand Nanni Moretti était en place, et ce sentiment d'avoir cultivé les berlusconismes et l'anti-berlusconisme n'a pas fait du bien à la vie politique italienne. Ces clashs permanent et ce clash permanent alimenté par ces soi-disant intellectuels n'a pas été suffisant. Et aujourd'hui, et j'entendais ce que disaient les professeurs, je suis tout à fait d'accord. Les discours de Beppe Grillo et les discours de Salvini, c'est mort aux experts, mort aux compétences. Un vaut un. Tout le monde peut faire tout le monde. Et ce n'est pas vrai. Et c'est pour cela qu'après, il nous sort un professeur de droit privé qui, sur papier, c'est quelqu'un de raisonnable et qui a manipulé son CV. Quelque chose qui s'est impensables en Allemagne, en France, et sur lesquels les Italiens peut-être ne vont pas réagir. Il a manipulé son CV. Il veut être Premier ministre. C'est inconcevable pour vous. En Italie, ça passe pas comme quelque chose d'honteux.
Mais Guido Mazzoni, en France, on a malgré tout des intellectuels qui considèrent que ce que l'on nomme le populisme est en réalité la démocratie et qu'il faut l'entendre.
Oui, d'un certain point de vue, la démocratie a un élément populiste qui est évident. Mais de l'autre côté, une démocratie rationnelle est un mélange dans l'élément démocrate, dans l'élément qui fait appel au démos, mais aussi dans l'élément spécialisé, dans l'élément, si l'on veut, élitaire, et aussi dans l'élément de décision qui a la possibilité, la capacité de prendre des décisions. Donc,
un mot de conclusion, Monique Vaut.
Est-ce qu'il y a des intellectuels de droite en Italie? Les trois quarts sont de gauche, alors ils critiquaient la gauche.
Oui, il y en a.
Sandro Gozzi.
Il y en a, mais...
Très peu,
mais les rôles des grands journaux et des éditoriaux dans ces années,
c'était... Deal et il y a eu des grands historiens...
Oui, d'accord, mais dans le passé. Aujourd'hui, si vous voyez, les trois quarts des intellectuels sont de gauche, oui. Et ce sont les plus critiques par rapport à la gauche. Alors c'est ça mais aussi, c'est un paradoxe,
totalement
si
détaché de cette réalité italienne dont vous parliez.
Merci.
Totalement détaché, et c'est la raison principale de leur critique vis-à-vis de nous.
Merci de vos lumières romaines, puisque nous étions en direct de Rome pour tenter en votre compagnie, Sandro Gozzi, Monique Vaut et Guido Mazzoni, de comprendre ce changement politique en cours en Italie.